National French Contest 2016, Level 4. Time, 1 hour. Number of questions, 60. General instructions. Indicate all your answers to questions by clicking the circle next to your preferred answer. Your teacher may provide you with one sheet of paper for notes or scratch work. No other paper may be used for this. No credit will be given for answers not submitted online. Do not minimize or close the browser window for any reason. If you close the browser window without saving, your work may be lost. If content restarts from the beginning, your results may not count for national rankings. There is no penalty for guessing, so it will be to your advantage to answer every question, even though you may not be sure that your answer is correct. Use your time effectively, working as rapidly as you can without losing accuracy. Do not waste time on questions that are too difficult. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later if you have time. Ready? Let's begin. National French Contest 2016, Level 4, Listening Comprehension. You will now hear a podcast. This podcast was broadcast on RTL.fr, a French radio station, on June 11, 2015. The interview lasts 1 minute and 48 seconds. You will have 30 seconds to read the questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with 1 minute in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the most appropriate answer from the four choices and indicate your choice by clicking the circle next to your choice. You may take notes while listening.
Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Terre d'innovation, Virginie Garin.
Et si nous faisions rouler des camions avec des vieilles salades ou pourquoi pas des tomates pourries? Bonjour Virginie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
C'est une chaîne de grande surface qui va approvisionner ses magasins avec des véhicules qui fonctionnent au biogaz. Rien ne se perd Virginie, et les vieux légumes remplacent le pétrole.
Oui, ce sont des légumes, des fruits qui ne sont plus comestibles, des vieilles salades, des cagettes de pommes en train de pourrir. Eh bien tous ces déchets sont récupérés et transformés dans une usine près de Lille en biogaz. Alors ils sont mélangés à des déchets agricoles, ça en fait plus. Ils sont chauffés, brassés et le gaz qui se dégage, le méthane, est récupéré pour faire rouler donc des camions, 200 camions que l'enseigne Carrefour va utiliser ensuite pour approvisionner ses magasins. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Tout se recycle. Alors ce mode de livraison permet de réduire de 90% les émissions de CO2, donc c'est bon pour le climat, mais c'est bon aussi pour nos poumons, car ces camions-là, ils vont circuler surtout dans les grandes villes et donc éviter de la pollution. Ils vont être déployés à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. D'autres enseignes hein, comme Ikea ont aussi choisi le biogaz, ou encore Biocoop, la chaîne de magasins bio. Et puis les bus à Lille roulent au méthane. C'est un carburant plus cher à produire que le pétrole. Il faut acheter des camions spéciaux, mais il permet d'éliminer les déchets et donc de supprimer un coût. Pour faire incinérer des milliers de tonnes de légumes avariés, ça coûte cher chaque année à Carrefour. Et puis autre avantage, un moteur au biogaz fait beaucoup moins de bruit qu'un diesel. Donc pour les livraisons la nuit dans les centres-villes, eh bien utiliser des camions qui roulent aux vieilles salades, ça permet de réveiller beaucoup moins de monde.
Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Terre d'innovation, Virginie Garin.
Et si nous faisions rouler des camions avec des vieilles salades ou pourquoi pas des tomates pourries? Bonjour Virginie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
C'est une chaîne de grande surface qui va approvisionner ses magasins avec des véhicules qui fonctionnent au biogaz. Rien ne se perd Virginie, et les vieux légumes remplacent le pétrole.
Oui, ce sont des légumes, des fruits qui ne sont plus comestibles, des vieilles salades, des cagettes de pommes en train de pourrir. Eh bien, tous ces déchets sont récupérés et transformés dans une usine près de Lille en biogaz. Alors, ils sont mélangés à des déchets agricoles, ça en fait plus. Ils sont chauffés, brassés, et le gaz qui se dégage, le méthane, est récupéré pour faire rouler donc des camions, 200 camions que l'enseigne Carrefour va utiliser ensuite pour approvisionner ses magasins. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Tout se recycle. Alors, ce mode de livraison permet de réduire de 90% les émissions de CO2, donc c'est bon pour le climat, mais c'est bon aussi pour nos poumons, car ces camions-là, ils vont circuler surtout dans les grandes villes et donc éviter de la pollution. Ils vont être déployés à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. D'autres enseignes comme Ikea ont aussi choisi le biogaz, ou encore Biocoop, la chaîne de magasins bio. Et puis les bus à Lille roulent au méthane. C'est un carburant plus cher à produire que le pétrole. Il faut acheter des camions spéciaux, mais il permet d'éliminer les déchets et donc de supprimer un coût. Pour faire incinérer des milliers de tonnes de légumes avariés, ça coûte cher chaque année à Carrefour. Et puis autre avantage, un moteur au biogaz fait beaucoup moins de bruit qu'un diesel. Donc pour les livraisons la nuit dans les centres-villes, eh bien utiliser des camions qui roulent aux vieilles salades, ça permet de réveiller beaucoup moins de monde.
Listening comprehension. You will now hear a podcast. This podcast was broadcast on RTL.fr, a French radio station, on June 26, 2015. The interview lasts 2 minutes and 15 seconds. You will have 30 seconds to read the questions before hearing the interview. The audio will be repeated twice with 1 minute in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the most appropriate answer from the 4 choices. Indicate your choice by clicking the circle next to your choice. You may take notes while listening.
Vous écoutez RTL, l'Angle Écho.
Bonjour François Langlais.
Bonjour Philippe.
Alors
bonjour,
vous avez parlé tout à l'heure du Wi-Fi, c'est un sujet évidemment qui a attiré notre attention. Vous nous parlez du Wi-Fi ce matin parce que il y a une forme de mouvement contre l'hyper-connexion du Wi-Fi. Un hôtel de luxe propose d'ailleurs désormais à ses clients un service inédit. Ils pourront se couper du monde en d'interrompant le Wi-Fi.
Mais oui, c'est la Villa Stéphanie à Baden-Baden en Allemagne. C'est un hôtel du groupe Oetker qui possède aussi le Bristol à Paris. Et on y a installé un interrupteur dans les chambres permettant d'actionner une protection qui est dans les murs et qui arrête toutes les ondes. Impossible de recevoir mails et SMS. Repos intégral. Bon, c'est pas donné, hein. C'est 1100 euros la nuit pour la chambre. Mais cette initiative est révélatrice d'un nouveau besoin. Se protéger des technologies de communication et de leur caractère invasif dans la vie privée et professionnelle, bien sûr. Ces outils nous ont probablement rendus plus productifs qu'auparavant, mais ils ont aussi brouillé la frontière entre la vie à la maison et la vie au travail. Le travail se loge désormais dans tous les interstices.
Dites François, ce ne serait pas plus simple tout simplement de couper son portable? C'est moins cher et c'est tout aussi efficace.
C'est pas aussi facile parce que il y a une addiction à l'écran qui nous conduit même là où nous ne souhaiterions pas aller. Vous savez combien de fois on regarde chaque jour son smartphone?
Non, pas exactement. Trop peut-être, mais...
Sûrement trop. 221 fois par jour en moyenne, selon le cabinet britannique Techmart. Ça fait 14 fois par heure éveillée. C'est en gros toutes les 5 minutes, enfin même un peu moins. Alors bien sûr, c'est à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles, impossible d'ailleurs de faire la différence. Lorsqu'elles sont arrivées, ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont arrivées il y a une petite vingtaine d'années, elles ont été les vecteurs d'une formidable liberté pour communiquer, pour s'informer, pour effectuer des transactions, des achats, pour faire des démarches. Et voilà que le maître, l'utilisateur, c'est nous, devient l'esclave de l'esclave, alors que l'esclave, le smartphone, est devenu le maître du maître. Les psychologues du travail ont même inventé un terme pour caractériser la dépendance du salarié accro à ses mails. C'est le syndrome FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose.
Vous écoutez RTL, l'Angle Écho.
Bonjour François Langlais.
Bonjour Philippe.
Alors,
bonjour.
Vous avez parlé tout à l'heure du Wi-Fi, c'est un sujet évidemment qui a attiré notre attention. Vous nous parlez du Wi-Fi ce matin parce que il y a une forme de mouvement contre la mobilisation, contre l'hyper-connexion du Wi-Fi. Un hôtel de luxe propose d'ailleurs désormais à ses clients un service inédit. Ils pourront se couper du monde en d'interrompant le Wi-Fi.
Mais oui, c'est la Villa Stéphanie à Baden-Baden en Allemagne. C'est un hôtel du groupe Oetker qui possède aussi le Bristol à Paris. Et on y a installé un interrupteur dans les chambres permettant d'actionner une protection qui est dans les murs et qui arrête toutes les ondes. Impossible de recevoir mails et SMS. Repos intégral. Bon, c'est pas donné, hein. C'est 1100 euros la nuit pour la chambre. Mais cette initiative est révélatrice d'un nouveau besoin: se protéger des technologies de communication et de leur caractère invasif dans la vie privée et professionnelle, bien sûr. Ces outils nous ont probablement rendus plus productifs qu'auparavant, mais ils ont aussi brouillé la frontière entre la vie à la maison et la vie au travail. Le travail se loge désormais dans tous les interstices.
Dites François, ce ne serait pas plus simple tout simplement de couper son portable? C'est moins cher et c'est tout aussi efficace.
C'est pas aussi facile parce que il y a une addiction à l'écran qui nous conduit même là où nous ne souhaiterions pas aller. Vous savez combien de fois on regarde chaque jour son smartphone?
Non, pas exactement. Trop peut-être, mais...
Sûrement trop. 221 fois par jour en moyenne, selon le cabinet britannique Techmart. Ça fait 14 fois par heure éveillée. C'est en gros toutes les 5 minutes, enfin même un peu moins. Alors bien sûr, c'est à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles, impossible d'ailleurs de faire la différence. Lorsqu'elles sont arrivées, ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont arrivées il y a une petite vingtaine d'années, elles ont été les vecteurs d'une formidable liberté pour communiquer, pour s'informer, pour effectuer des transactions, des achats, pour faire des démarches. Et voilà que le maître, l'utilisateur, c'est nous, devient l'esclave de l'esclave, alors que l'esclave, le smartphone, est devenu le maître du maître. Les psychologues du travail ont même inventé un terme pour caractériser la dépendance du salarié accro à ses mails. C'est le syndrome FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose.
Listening comprehension. You will now hear a podcast. This podcast was broadcast on RTL.fr, a French radio station, on July 2, 2015. The interview lasts 2 minutes, 11 seconds. You will have 30 seconds to read the questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with 1 minute in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the most appropriate answer from the four choices. Indicate your choice by clicking the circle next to your choice. You may take notes while listening.
Vous écoutez RTL.
RTL bouge.
RTL, gros ce matin.
Il y avait un commerçant, je vous dis, qui était chaland. Quand il avait à chanter, il ne faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ce vieux refrain. Ses carottes, puis ses...
Alors comment les petits commerçants perçoivent-ils leur avenir en centre-ville? Voilà ce qu'a voulu savoir l'Observatoire de la Confiance, TNS Sofres pour La Poste, que vous nous dévoilez, Armel, avant tout le monde.
Oui Stéphane, il y a un nuage à l'horizon. Les petits commerçants déplorent la faible attractivité des centres-villes. Les trois quarts des commerçants estiment que leur ville est de moins en moins accessible. Déjà aux camions de livraison, mais aussi à leurs clients. Les centres-villes, vous l'avez remarqué, sont de plus en plus piétons, donc c'est beaucoup plus pratique maintenant d'aller faire ses courses dans les centres commerciaux, en périphérie des villes, puisqu'on peut se garer facilement. Et aussi, c'est un gain de temps, on est sûr de trouver ce que l'on cherche, puisque toutes les enseignes sont regroupées au même endroit. Donc un commerçant sur deux pense que finalement, son avenir, cela peut être d'ouvrir un magasin en périphérie.
Un commerçant sur deux envisage son avenir à la périphérie de la ville pour sauver son affaire, c'est énorme.
Oui, alors attention, 8 commerçants sur 10 disent qu'ils aimeraient vraiment rester en centre-ville, parce que ça a lieu plus convivial, plus sympathique, c'est plaisant. Il y a un lien humain qu'on ne retrouve pas forcément dans les centres commerciaux. Le petit commerce, c'est vraiment un lieu d'échange entre les commerçants et leurs clients, mais aussi entre les clients eux-mêmes. C'est un lieu où tout le monde se côtoie, de la personne âgée qui descend faire ses courses, aux enfants qui sortent de l'école. Et quand un commerçant baisse le rideau, c'est tout un quartier qui s'en ressent.
Armel, nos petits commerçants sont conscients qu'ils ont encore des atouts?
Oui, c'est le contact. Et les deux tiers des commerçants sont persuadés que globalement, le petit commerce peut encore créer des emplois. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire pour réenchanter leur ville. Ils sont vraiment inquiets parce qu'ils aiment leur centre-ville, mais ils ne savent pas comment faire pour le redynamiser. C'est tout l'enjeu pour eux. Donc ils misent beaucoup sur Internet pour changer de modèle économique.
Ça veut dire quoi? Révolution numérique?
Oui, maintenant, la moitié des petits commerçants a sa vitrine sur Internet pour se faire connaître en présentant ses produits et ses horaires d'ouverture. Et ils sont même un tiers à avoir déjà créé leur propre site marchand pour que les clients puissent commander en ligne et devenir ainsi plus attractifs.
Merci Armel.
Vous écoutez RTL.
RTL bouge.
RTL, consommateur.
Il y avait un commerçant, je vous dis, qui était chaland. Quand il avait à chanter, il ne faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ce vieux refrain. Ses carottes, puis ses...
Alors comment les petits commerçants perçoivent-ils leur avenir en centre-ville? Voilà ce qu'a voulu savoir l'Observatoire de la Confiance, TNS Sofres pour La Poste, que vous nous dévoilez, Armel, avant tout le monde.
Oui Stéphane, il y a un nuage à l'horizon. Les petits commerçants déplorent la faible attractivité des centres-villes. Les trois quarts des commerçants estiment que leur ville est de moins en moins accessible. Déjà aux camions de livraison, mais aussi à leurs clients. Les centres-villes, vous l'avez remarqué, sont de plus en plus piétons, donc c'est beaucoup plus pratique maintenant d'aller faire ses courses dans les centres commerciaux, en périphérie des villes, puisqu'on peut se garer facilement. Et aussi, c'est un gain de temps, on est sûr de trouver ce que l'on cherche, puisque toutes les enseignes sont regroupées au même endroit. Donc, un commerçant sur deux pense que finalement, son avenir, cela peut être d'ouvrir un magasin en périphérie.
Un commerçant sur deux envisage son avenir à la périphérie de la ville pour sauver son affaire, c'est énorme.
Oui, alors attention, 8 commerçants sur 10 disent qu'ils aimeraient vraiment rester en centre-ville, parce que c'est un lieu plus convivial, plus sympathique, c'est plaisant. Il y a un lien humain qu'on ne retrouve pas forcément dans les centres commerciaux. Le petit commerce, c'est vraiment un lieu d'échange entre les commerçants et leurs clients, mais aussi entre les clients eux-mêmes. C'est un lieu où tout le monde se côtoie, de la personne âgée qui descend faire ses courses, aux enfants qui sortent de l'école. Et quand un commerçant baisse le rideau, c'est tout un quartier qui s'en ressent.
Armel, nos petits commerçants sont conscients qu'ils ont encore des atouts?
Oui, c'est le contact. Et les 2/3 des commerçants sont persuadés que globalement, le petit commerce peut encore créer des emplois. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire pour réenchanter leur ville. Ils sont vraiment inquiets parce qu'ils aiment leur centre-ville, mais ils ne savent pas comment faire pour le redynamiser. C'est tout l'enjeu pour eux. Donc ils misent beaucoup sur Internet pour changer de modèle économique.
Ça veut dire quoi? Révolution numérique?
Oui, maintenant la moitié des petits commerçants a sa vitrine sur Internet pour se faire connaître en présentant ses produits et ses horaires d'ouverture. Et ils sont même 1/3 à avoir déjà créé leur propre site marchand pour que les clients puissent commander en ligne et devenir ainsi plus attractifs.
Merci Armel.
This is the end of part A. Go on to part B.